Alors, une interrogation récurrente, pourquoi suis-je célibataire? Aînée de trois enfants, je suis la seule célibataire. Je suis célibataire et je n'ai pas choisi cet état de vie qui est le mien. Je ne crois pas que ce soit une vocation quand il n'est pas choisi, mais cela semble être mon destin. Je me suis souvent posé la question du pourquoi suis-je célibataire. Pour moi, je parle en témoignage propre, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Il y a la part qui est liée aux parents. J'ai eu, et d'autres amis aussi, nous avons eu des phrases qui ne nous ont pas aidés à nous croire aimables, qui ne nous ont pas valorisés. Je me souviens un jour aussi de ma mère qui me voit, on va déjeuner, elle était face à une amie veuve, et elle me dit, tu vois, plus tard, elle était avec des célibataires, tu seras comme ça. Poids aussi de l'aîné, je connais pas mal d'aînés, il n'y a pas que des aînés, mais pas mal d'aînés qui sont célibataires. On a sans doute été surresponsabilisés, on a fait face aussi à des parents qui découvraient leur métier de parent. Le poids des parents qui peuvent être à l'origine, pas forcément voulu bien sûr, de blessures d'enfance, pour ma part, moi je les ai identifiées grâce à un travail sur moi-même. Le deuxième facteur, c'est une part personnelle. La rencontre, c'est le fruit d'une volonté. Il faut vraiment vouloir rencontrer l'autre, vouloir l'aimer. Pour ma part, j'ai eu envie, j'ai vibré, j'ai été amoureuse, mais est-ce que j'ai suffisamment voulu aimer, justement, sans attendre des merci? Est-ce que j'ai accepté l'autre profondément tel qu'il était? Le troisième facteur, c'est aussi une part de la société qui est liée à la société. Je pense que mai 68 a fait beaucoup de dégâts. Le rôle des hommes par rapport aux femmes est moins défini, est plus brouillé, ils ne savent pas où se situer. Je suis persuadée que nous sommes des victimes collatérales de mai 68, parce que c'est un phénomène qui dure. Et puis enfin, il y a une part de mystère, c'est le mystère de la vie. Cependant, il n'y a pas d'âge ou de fatalité. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés tardivement, au-delà de 50 ans. Pourquoi à ce moment-là? Ils étaient sans doute prêts? Ils ne l'étaient pas avant. Et la rencontre de deux cœurs se fait quand chacun est prêt à s'ouvrir et à renoncer à ses rêves et à ses schémas, à ses idéaux. Le travail sur soi, il est utile pour tenter de comprendre les blessures, la peur de l'engagement, la peur de l'autre. Mais une phrase du père Luc Ravel, qui est aujourd'hui archevêque de Strasbourg, et qui nous a, je vous en parlerai plus tard, qui nous a accompagnés dans un mouvement de célibataires, m'a beaucoup marqué. On peut connaître ses blessures, elles restent au fond de soi, mais il faut choisir de demeurer dans l'eau claire. Alors mon parcours de vie, je l'ai découpé en dizaines. Donc la première partie, de 20 à 30 ans, c'est le temps de l'espérance, le temps de l'insouciance et des divertissements. Temps de l'espérance, je me marierais, j'aurais 5 enfants. Temps de l'insouciance et des plaisirs, avec une vie amicale très dense entre des week-ends, des voyages entre amis, j'avais plusieurs bandes. Je me suis guère posé, à vrai dire, avant l'âge de 28-30 ans, la question du mariage et sur le sens que je voulais donner à ma vie. C'est aussi, pendant cette période, ça a été un temps de conversion. À 24 ans, j'ai eu la chance de faire un pèlerinage à Częstochowa, en Pologne. J'avais été élevée dans une famille chrétienne et je pratiquais, mais c'est vraiment à cet âge-là que j'ai choisi d'être chrétienne, profondément. Cette dizaine, ça a été aussi le temps d'agoucher des premiers engagements associatifs, notamment pour la Pologne. La période de 30 à 40 ans, c'est le temps de l'attente, c'est le temps du questionnement, de la désolation, de la souffrance. Souffrance de voir tous ses amis, IS ou IES, se marier, s'éloigner de par leur nouvel état de vie, d'époux et de parents, d'autres préoccupations, moins de disponibilité pour leurs amis célibataires. Même si on se réjouit pour eux, on les félicite pour la naissance de tel ou tel enfant, on se dit, c'est toujours aux autres que ça arrive, et moi, je reste sur le bord du chemin. C'est aussi une période de déception amoureuse. Pour ma part, je me suis intéressée à des garçons qui ne pouvaient pas s'engager, conséquence de mes blessures, de leurs blessures. L'échec est douloureux, blessant, surtout quand l'horloge biologique est en marche. Les hommes vous disent directement, je veux une femme jeune pour avoir des enfants. C'est aussi le temps du questionnement. La question du mariage a occupé beaucoup de nos conversations entre amis-filles au gré de nos déceptions. Lorsque j'avais 35 ans, l'une d'entre elles m'a dit, mais on va quand même pas. Elle m'a donné cette phrase qui m'a marqué, nous allons quand même pas vivre toute notre vie dans une salle d'attente, parce que c'était un petit peu ça, on était dans une attente. Et pourtant, j'ai eu l'impression d'être dans une salle d'attente jusqu'à mes 48 ans. Jusqu'à un âge avancé. Aujourd'hui, j'en ai 60. Alors, la période des 40 à 45 ans, c'est encore un temps de désespérance, mais avec un temps de révolte très fort. Pour ma part, accompagné du deuil de mes parents, ils sont partis à 15 jours de mes 40 ans, à 2 mois d'intervalle. Et puis, c'est un temps de la remise en cause. Alors, ce temps de désespérance et révolte, parce qu'il est lié aussi au deuil de la maternité, révolte contre Dieu, révolte contre ma mère. J'ai pu faire une démarche de pardon ensuite. Sentiment profond de solitude, c'est sûr que la perte, la solitude se fait plus pesante que dans le tourbillon de la trentaine. Et puis pour moi, ça a été encore plus prégnant de par le deuil de mes parents. J'ai découvert ce que signifiait ne plus compter pour personne. On part en vacances, on rentre, personne n'est là pour savoir si vous êtes bien rentré. Heureusement, il y a mon employeur, je pense que si je n'étais pas rentré au bout de 2 jours, il se serait inquiété, mais il n'y a plus le parent qui dit alors, t'es bien rentré, t'as passé des bonnes vacances. Et ça a été une découverte peu de temps après leur départ. Et puis j'ai réalisé aussi à ce moment-là que mes frères et sœurs, ils avaient leur vie de famille. Ils étaient encore dans un schéma de construction, il y avait des naissances à venir. Donc j'avais aussi, même si on s'entend bien, le deuil de. Bah, voilà, j'étais pas première non plus chez eux. La remise en cause, ça a été, je l'évoquais en commençant, aussi un travail sur moi-même à travers des sessions avec Simone Pacaud, un parcours avec une thérapeute. J'ai tenté de comprendre le pourquoi et de voir si je pouvais changer, agir ou réagir autrement. La période de 45 à 60 ans, c'est un temps du renouveau. Hein, on suit les courbes du deuil, vous voyez, entre la révolte, la désespérance et puis l'acceptation, et avec l'acceptation, le renouveau. Et ça a donc été le temps de l'acceptation et de l'apaisement, de la liberté intérieure, de la maturité. L'acceptation de cette situation, cet état de vie, c'est une grâce que j'ai reçue à l'âge de 48 ans, après un pèlerinage à Rome, pour lequel j'avais donné toute mon année, en plus de mon travail, faisant partie du trio de tête de l'organisation de ce pèlerinage de 500 personnes à Assise et Rome. Mais quel soulagement, quelle libération que d'accepter. Cette acceptation m'a permis de me dire, je ne suis pas réduite à mon état de vie. Elle m'a permis de lâcher prise et elle m'a donné une liberté intérieure. C'est une liberté qui, aujourd'hui, me permet de me rendre seule au cinéma. Ça, c'est récent, hein? L'année dernière, pour la première fois toute seule au cinéma. Passer un week-end seule sans me dire, personne ne m'aime. J'ai mis du temps aussi à accepter de passer une journée seule. Je crois que c'est arrivé après l'âge de 40 ans. Et c'est une liberté qui m'a permis aussi d'organiser vaillamment des fêtes pour célébrer mes 50 ans. J'ai eu une messe d'action de grâce avec le père Hubert, Hubert Louvet, qui gentiment m'avait, et je sais que dans votre emploi du temps, donné une journée pleine, c'est beaucoup, pour célébrer le bonheur que je vivais. Et puis tout récemment, j'ai aussi fêté vaillamment mes 60 ans dans ma ville natale, à Casablanca, entourée de famille et amis. Et puis je goûte aussi la maturité qui permet d'atteindre un équilibre de vie. Malgré tout. Alors, ce qui m'a aidé dans mon parcours, une famille unie avec mon frère et ma sœur, nous passons 10 jours de vacances ensemble avec leurs enfants, tous les étés. Il y a cette fidélité. Des amitiés profondes aussi, qui sont nouées à l'occasion de pèlerinages en Terre Sainte, en Pologne. Et puis des grâces. Il y a 10-15 ans, une amie m'a vraiment aidé à trouver une richesse de cette vie. Elle me dit, mais. Nous, on a le temps, le célibataire a le temps de se poser des questions existentielles, de réfléchir au sens de la vie. Elle me dit, moi, elle m'a étonnée, elle me dit, tu vois, le soir, quand mon mari rentre, il est fatigué, je lui raconte mon quotidien, mais quand je parle avec toi, on évoque toutes ces questions de la vie qui me tiennent aussi à cœur, et j'ai du mal à m'endormir avant 3 h du matin. Et de mon côté, je lui disais que moi, c'était le contraire. L'inverse, je n'avais personne à qui raconter mon quotidien, jamais. Par contre, j'avais régulièrement le loisir d'évoquer, d'échanger en profondeur avec des amis 2-3 fois par semaine. Et cet ami, par sa réflexion étonnée, m'a aidé à prendre conscience de cette richesse. Ce qui m'a aidé aussi, bien sûr, c'est la foi que m'ont transmise mes parents, qui ont eu tous les deux des vrais chemins de sainteté à travers leur maladie. J'ai pu me révolter contre le Seigneur, mais je n'ai jamais perdu la foi, ni cessé de pratiquer. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, c'est ce mouvement de célibataires et personnes seules, Notre-Dame de l'écoute, initié donc par le père Ravel, qui est aujourd'hui donc l'archevêque de Strasbourg, et qui, par le hasard d'une rencontre amicale, quand il avait 38-40 ans, on va dire que c'est la providence, hein, c'est pas tellement le hasard d'une rencontre amicale, il a pris au sérieux cette question du célibat. Il a découvert qu'il y avait plein de gens de 35 ans qui étaient tout à fait attirants, mais qui n'étaient pas mariés. Et il a créé ce groupe, et on a eu des pèlerinages, des groupes de Lectio Divina, des week-ends spirituels, et ça m'a aidé à tisser des liens autres et à passer cette dizaine. J'ai appartenu à ce mouvement pendant presque 9 années. Ça a été un jalon et ça m'a aidé à me remettre debout après toutes ces années de révolte, à accepter de faire, selon l'expression que nous avions utilisée pour un jubilé de l'espérance au Puy-en-Velay, de ce célibat d'attente non choisi, un temps de fécondité et de joie. Ce qui m'a aidé aussi, c'est un job fécond et utile aux autres. Mon métier, c'est les ressources humaines. Et j'ai eu la chance d'être consultante et d'accompagner les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, donc dans une période de détresse pour certains. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir les aider à les remettre sur le chemin de la vie professionnelle. Les célibataires se donnent beaucoup dans leur travail. La phrase, le Mario là, m'a rejoint. Parce que c'est vrai qu'il n'y a personne d'autre dans mon cœur, donc on se donne beaucoup dans son travail. Je crois que même avec ses neveux, j'en parlerai après, même si là aussi je ne suis pas leur parent. Quand il y avait ma sœur et moi, les enfants de mon frère, c'est vers moi qu'ils devaient sentir que j'avais une disponibilité, que ma sœur, elle les aimait aussi, mais elle avait ses propres enfants. Elle était moins disponible aussi. Je pense qu'ils le sentaient confusément, parce que c'était des petits bouts qui avaient 2 ou 4 ans. Alors ce qui me soutient encore aujourd'hui, c'est les signes tangibles de la présence de Dieu tout au long de mon parcours, dans les petits événements du quotidien comme dans les grands. J'ai vécu moult fioretti, j'aurais peut-être dû le noter d'ailleurs. Et puis il y a d'autres événements plus importants où je sens vraiment sa présence. J'ai changé de métier il y a 2 ans, à un âge où normalement on ne rentre plus en entreprise, et je suis rentrée en entreprise, mais je me suis sentie conduite, et puis dans d'autres événements aussi. Et ces signes, ils passent aussi, j'ai dû créer mon propre emploi quand j'ai été licenciée à 52 ans, c'était un choc. Je craignais pour l'avenir, parce que tout le monde sait qu'après 50 ans, c'est pas évident. Et j'ai un de mes anciens candidats qui m'a appelé la veille de Noël. La veille, j'avais dit à un consultant qui voulait qu'on travaille ensemble, mais je sentais pas les choses, et puis quand on n'a pas de travail, on se dit, quand même, il me propose de créer une activité, je savais pas dire non, puis dans mon cœur, puis aidé par des amis, je dis, je n'irai pas. Je n'irai pas travailler avec lui. Et le lendemain, veille de Noël, message d'un de mes anciens candidats qui me dit, il paraît que vous n'avez plus de bureau. Moi, il y a 10 ans, vous m'avez mis au travail, et bien aujourd'hui, je vous mets au travail. Il m'a prêté un bureau en plein Paris, dans le quartier d'Or. Pendant 8 mois, je n'ai pas payé de loyer jusqu'à ce que je puisse... Donc il m'a vraiment aidé à mettre le... Et ça, à travers lui, c'était Dieu. Ce qui me soutient aussi aujourd'hui, c'est l'apprivoisement de ma solitude. Être un bon compagnon pour soi-même. Là aussi, c'est un de mes anciens candidats qui m'a dit « C'est important d'être un bon compagnon pour soi-même. » Et je l'ai vécu lorsque je suis partie toute seule sur un chemin de Compostelle. Ce chemin, il s'est fait sur plusieurs années. Au début, on était 5 amis, puis 5, puis après, on s'est retrouvés avec une autre amie. Puis la dernière année, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit « C'en est fini de mon chemin. Je ne vais pas partir toute seule sur ce chemin. » Et puis, je me suis dit « C'est quand même dommage, à 15 jours de l'arrivée, de gâcher... » c'est 900 km, hein, c'est 9 semaines, et je suis partie. Ce qui m'empêchait de partir, c'était de partir sans repère affectif. Et je suis partie, ça a été le meilleur chemin, la meilleure portion du chemin, la moitié du trajet espagnol. Et puis même aujourd'hui, quand je suis un samedi soir chez moi, je suis heureuse. En fait, c'est le seul soir de la semaine, c'est toujours une pression, il faut sortir le samedi soir, aller au cinéma. C'est le seul soir de la semaine où je suis... paisible, enfin je ne suis pas fatiguée. Quand je rentre chez moi en semaine, je suis un peu fatiguée. Donc je goûte ça. Ce qui m'aide aussi, c'est une vie au jour le jour. Je crois que dès qu'on se pose des questions, la vieillesse arrive, qu'est-ce que je vais faire, qui s'occupera de moi, on n'est pas bien. Il faut vraiment lâcher prise et faire confiance. Faire confiance. Donc, ma devise, c'est faire mon devoir d'État. Mon devoir d'État, pour l'instant, je ne suis pas encore à la retraite, j'ai encore 4 ans à travailler, c'est gagner ma croûte et subvenir à mes besoins, s'occuper de mes affaires. Personne ne le fera d'autre. Être une femme debout. Mon leitmotiv, c'est faire plus envie que pitié. Ce qui m'aide aussi, c'est le sentiment d'être riche d'une expérience de vie, avec ses joies, ses épreuves, le deuil, le chômage, les déceptions. Mais cette vie, elle a tout autant de valeur qu'une autre. Et je suis souvent sollicitée comme confidente, conseillère, de par cette expérience de vie. Alors, ce qui me rend heureuse dans cet état de vie, c'est ma disponibilité aux autres, disponibilité pour les rencontres diverses, vivre les imprévus, disponibilité pour rendre service, beaucoup d'entraide dans ce célibataire, et puis ma liberté d'agir. Cette année, avec cette liberté, j'ai eu la chance d'aller en Haïti pour aller voir ma filleule qui faisait un volontariat d'un an dans le cadre avec la délégation catholique à la coopération. J'ai eu cette disponibilité pour aller voir la voir pendant une dizaine de jours, et ça a été un séjour extrêmement marqué. Et puis je crois que dans notre relation qui était déjà assez forte, ce sera quelque chose d'éternel, parce qu'elle a vécu une année exceptionnelle, hein, une expérience. Et donc ça va nous lier à vie, encore plus. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est le sentiment d'avoir ma pierre à apporter à l'édifice, indépendamment de mon état de vie. C'est le sentiment de continuer à avancer, rien n'est figé. C'est pas parce qu'on avance en âge qu'on se fige, donc on continue à s'améliorer, à avancer. C'est d'écouter, de transmettre, de témoigner. J'aime beaucoup le contact avec les jeunes, avec les plus jeunes. Et je sens que ma force de vie, mon énergie peut être un témoignage. Je suis heureuse de faire bénéficier de mon expérience. Alors maintenant, ce qui reste difficile, c'est la pauvreté de ce célibat non choisi. Une pauvreté, entre guillemets, qui est parfois une douleur, plus rarement maintenant, mais qui ressurgit au détour d'un événement fortuit. Les vacances d'été en famille, j'aime beaucoup, ou à Noël, mais on ressent sa solitude aussi quand on est au contact des autres familles. Donc ça ressurgit au détour d'un événement, d'une phrase, ou d'un moment de solitude. Donc c'est une pauvreté sur le plan matériel. Il faut jouer le rôle de monsieur et madame, pour tous les actes de la vie. Avant-hier, j'ai commencé des travaux de peinture chez moi, j'ai tout déménagé toute seule. Bon, j'ai fini par appeler un neveu pour m'aider, mais avant-hier matin, seule avec mon trottoir, avec mes affaires, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Il faut toujours assumer. La liberté, c'est aussi difficile de faire des projets de vacances, de toujours devoir organiser sa vie. Parce que même si la Providence œuvre souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une pauvreté aussi sur le plan social. Le célibat, c'est pas un statut. Et il y a beaucoup d'a priori liés à ce statut. Même dans une communauté paroissiale, un célibataire ne ressent pas toujours sa place quand on parle des familles, etc. Un célibataire, il n'a pas de reconnaissance. Nous sommes souvent suspectés d'égoïsme. Or, je vous connais beaucoup de célibataires engagés dans un service, engagés auprès de leurs vieux parents de façon extraordinaire. Sur le plan social aussi, c'est une certaine vulnérabilité. Il n'y a pas de protecteur. Les gens se sentent libres d'exprimer certaines choses qui peuvent être blessantes ou méchantes, et qu'ils n'expriment même pas si la personne avait un conjoint. Ce qui reste difficile, c'est de temps en temps, quand même, le sentiment de gâchis, de virater qui surgit de temps à autre. À quoi sert ta vie? C'est le sentiment de solitude, j'en parlais, qui peut m'assaillir malgré l'apprivoisement de cette solitude et le besoin de cette solitude, parce que je me ressource en étant seule. C'est l'absence d'affection au quotidien. Les personnes en famille n'imaginent pas ce que célibat signifie au quotidien sur ce plan-là, pas même mes frères et sœurs. Effectivement, il n'y a pas de petit baiser le matin qu'on se lève. L'autre jour, une collègue de travail me disait, ce matin, j'étais pas très bien, et je reconnais que ma dernière fille est venue me faire un petit bisou avant que je parte au travail, et que ça m'a fait chaud au cœur. Ce qui reste une difficulté, c'est de faire des projets d'avenir. C'est moins évident à faire seul. Mais le faire ses projets, C'est une preuve de confiance et de liberté intérieure. Alors, il y a peut-être des parents parmi vous ou des amis de célibataires, maris de célibataires. Même s'il est évident que les parents souffrent pour leurs enfants, j'ai pris conscience tardivement de cette souffrance que pouvaient ressentir les parents. Souffrance de ne pas être grands-parents, souffrance aussi face à la souffrance de leurs enfants célibataires. Je viens d'une famille, pour ma part, où on est un peu prude, et les parents ne m'ont rien exprimé, hormis ces quelques pics de ma chère mère, mais qui en fait traduisaient sa souffrance. Elle ne savait pas le dire autrement. C'est après son décès qu'en triant ses papiers, j'ai compris qu'elle cherchait à comprendre à sa façon ce qui pouvait m'agiter, ce que je faisais, ce que je vivais. Aujourd'hui, j'appréhende en voyant mes nièces suivre ce chemin. Elles ont 28 ans, les aînées, 29 ans. C'est pas plus facile aujourd'hui quand on est chrétien. C'est peut-être encore moins facile de rencontrer l'autre dans un monde ultra connecté, ultra libéral et sans repères, sans moralité. Mais c'est aussi un problème pour les non-chrétiens qu'ont fait les nombreux sites de rencontres. La société n'aide pas à s'engager. Alors, autre conseil, écoutez la souffrance de vos enfants. Traitez ces enfants célibataires comme les autres. Leur donner une vraie chambre et non pas un petit coin de grenier. C'est des histoires vraies. Leur offrir des cadeaux, comme on en offre à ceux qui ont eu un bébé. Les valoriser. Être disponible, invité, accueillir le dimanche. À la sortie de la messe le dimanche, je suis toujours étonnée par... Je vois des wagons de célibataires qui repartent seuls chez elles. À la sortie de la messe. Évitez aussi certaines expressions, les sempiternelles, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une vérité, l'enfer peut être un mariage, un enfer, pardon. Le mariage peut être un enfer dans certaines situations, s'il y a la dépression, la maladie d'un des conjoints, l'épreuve du chômage. Mais entendre cela systématiquement, en tout cas je parle pour moi, est particulièrement agaçant. Surtout qu'en général, ça vient de personnes qui sont celles qui sont heureuses dans leur vie de famille, qui ont la joie d'avoir des enfants. L'autre chose, tu as des neveux. Oui, j'ai la chance d'avoir des neveux, j'ai des amis qui sont fils uniques et je trouve ça très dur de ne pas avoir de neveux, parce que des neveux, c'est aussi la promesse de réunions familiales, il y a les communions, les baptêmes, il y a les mariages. On a une place spéciale dans leur vie et dans leur cœur, qu'ils savent reconnaître, mais nous ne sommes pas comme les enfants du caté, nous ne sommes pas leurs parents. Ils ne seront jamais présents au quotidien comme ils le feraient avec leurs parents. Souvent, entre amis, on se dit, d'ailleurs, n'attendons rien, ne rien attendre de nos neveux. Tout ce qui sera donné sera cadeau. C'est naturel qu'ils aient leur propre vie. Me voilà arrivée à la conclusion. En conclusion, je suis une célibataire heureuse. Avec l'acceptation de mon état de vie aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse et que je connais un certain bonheur. J'ai la chance d'avoir une vie riche en rencontres, heureuse et féconde, malgré tout, de me sentir pleinement femme, considérée, voire susciter une certaine admiration, je la sens dans les regards qui se portent pour moi. Grâce aux amis qui ont été ma famille au quotidien, j'ai appris à voir les richesses et les fécondités de ma vie. Aujourd'hui, je continue à avoir des gentilles pressions amicales, car le célibat reste quelque chose d'incompréhensible aux yeux de beaucoup, qui se demande aussi comment on fait avec la solitude. Mais je reconnais que je ne le veux plus, ne le souhaite plus, attaché à ma liberté, à l'équilibre de vie que j'ai finalement construit. Même si, comme je vous le disais, j'ai des amis qui sont mariés très tardivement et qui sont pleinement heureux et épanouis aujourd'hui. Alors quel est l'avenir pour les 15 ans, 15 à 25 ans qui viennent? J'ai une appréhension de la vieillesse, consentir au temps qui passe, mais ça c'est le cas pour tout le monde. Il y a son lot de renoncement face à la fatigue, aux éventuels problèmes de santé. Seule la foi peut permettre de transformer ces appréhensions en espérance. Ce sera un temps béni pour vivre une vie plus posée, en lien avec Dieu, plus de temps. L'appréhension de la solitude, une fois que je serai à la retraite, mais Dieu veille. Alors les conseils que je donnerai maintenant pour terminer, les points d'attention aux célibataires, c'est de rester ouvert aux autres. Attention à l'égoïsme, nous ne sommes pas habitués à faire des concessions. Je le vois de plus en plus dans des week-ends de groupe. Gardez la joie, comme disait Monseigneur Ravel, qui a retrouvé la joie devient attirant. Dans nos week-ends de récollection, les communautés accueillantes étaient souvent très étonnées par notre gaieté. Ils disaient, on ne savait pas que c'était comme ça, les célibataires. Alors, l'épreuve du célibat, du deuil, du chômage, de la maladie, rien n'est jamais acquis comme dans n'importe quel autre état de vie. C'est un combat au quotidien, avancé. C'est un appel à la confiance, au lâcher prise en permanence, à la conversion qui apporte force, paix et consolation. Et pour terminer, je dirais Deo gratias et je vous réciterai une action de grâce que chantent les Haïtiens et que j'aimerais faire mienne. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à aimer comme tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne l'aurais jamais espéré. Quand tout me semble rien, tu m'enseignes la vie. Quand tout gronde au loin, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu raffermis mes pas. Tu es, dès le matin, le soutien de ma faible foi. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus.
Merci.